Bonsoir, comment allez-vous? Voilà, cette émission se termine en beauté avec un alchimiste, oui, un vrai, bien vivant. Peut-être a-t-il un peu plus de 1000 ans. En fait, Patrick Burin-Stenaz a plutôt l'air d'avoir 50 ans. Il nous parlera de la transformation de la matière, mais aussi de notre transformation à nous, de la beauté du monde, de la lumière, du souffle, des émotions, des symboles, des rêves, des contes de fées, des monuments, de la danse des lettres et du sens des mots. Tout au long de cette année, nous avons essayé de comprendre qui était l'homme, ce qu'il faisait sur cette terre, comment pourrait-il s'y prendre pour vivre en paix, en abondance et en bonne entente avec son entourage. De la Chine traditionnelle chère à Cyril Javary, à la méthode pour avoir une belle image de soi de Roméo Cournal, aux arbres d'Erne-sur-Cher, en passant par les animaux d'Éric Baratet, nous avons emprunté de belles pistes, il en reste beaucoup. Ces pistes se croisent, se rejoignent, se séparent, puis se retrouvent. La sérénité n'est pas un point, mais un état d'esprit.
France Inter, état d'esprit, Noël Bréham.
Patrick Burin-Stenaz.
Bonsoir.
Merci d'être venu.
Merci de m'accueillir.
Alors, votre dernier livre s'appelle « Un alchimiste raconte » et c'est édité chez Massot Éditions. C'est un livre qui parle d'alchimie, mais c'est sidérant parce qu'en 2017, vous n'êtes pas très nombreux, si ?
Ah, on ne sait pas, il y a peut-être plein de gens qui font de l'alchimie comme Monsieur Jourdain, sans le savoir.
Sans le savoir.
On va dire qu'il y a quelques alchimistes déclarés et sans doute quelques-uns plus discrets.
Alors dans ce livre-là, vous nous parlez de la pierre philosophale, de métaux, de feu, de lumière, mais aussi d'émotions, de peurs, d'ondes, ça on connaît bien les ondes à la radio, de sagesse ordinaire qui passe par les méandres de l'extraordinaire, y a-t-il écrit sur le dos de votre livre. Et vous organisez aussi, Patrick Burin-Stenaz, des conférences, vous organisez des voyages sur des lieux extraordinaires. Alors j'ai envie de vous demander ce que c'est qu'un alchimiste.
C'est juste quelqu'un qui cherche le bonheur, finalement. Vous savez, on utilise beaucoup la langue des oiseaux, et le bonheur, c'est la bonne heure. Donc, c'est la quête du moment présent. D'ailleurs, quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est toujours un présent. Jamais un passé, ni un futur. Et c'est peut-être cette qualité d'observation. On parle du premier travail qui est la contemplation. Et la contemplation, c'est l'ouverture du temple. C'est donc s'asseoir quelque part, ne rien faire, et juste percevoir. Perce pour voir, percer quoi pour voir quoi finalement.
Ça c'est très amusant, hein. Vous faites ça tout au long de votre livre, hein. Comme ça de hop hop hop, de décortiquer les mots, on dirait une espèce de Rubik's Cube de mots. Vous les tournez dans l'autre sens et puis il apparaît quelque chose d'inattendu, de nouveau.
C'est ça, c'est peut-être ça l'alchimie, c'est cette capacité de voir ce qu'on a sous les pieds, ce qu'on a autour de nous, et de découvrir, de dévoiler littéralement les choses. C'est pas que les choses ne sont pas là, j'ai souvent des gens qui me disent « j'ai pas vu mes enfants grandir ». Je leur dis « mais il fallait regarder ». Et le reste de la nature, c'est la même chose. Et l'alchimiste, on est un peu les philosophes de la nature, c'est que on n'invente rien, mais on dévoile ce qui est.
Un petit peu comme les étoiles, Patrick Burin-Stenaz, qui sont dans le ciel dans la journée, qu'on ne voit pas, on ne les voit que la nuit.
Absolument. Et la quête de l'alchimiste, c'est sans doute ça. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas la pierre philosophale, il la trouve. Et je pense qu'elle est dès le début quelque part, mais on ne la voit pas. Et peut-être que toute la quête est cette capacité de se déceler et d'être capable de voir les choses.
Donc c'est ouvrir les yeux.
Oui.
Et les oreilles, parce que vous venez de donner déjà plusieurs exemples de mots. Vous avez dit, Patrick Burin-Stenaz, la langue des oiseaux.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que c'est ?
Parce que c'est une langue très volatile, très subtile. On dit en alchimie, on cherche que l'esprit descende dans la matière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille dans un laboratoire, moitié labor et moitié oratoire. Moitié dans la matière et moitié dans l'esprit. Et donc ce volatile qui se fixe, cet oiseau qui se pose, cet oiseau scellé, on entend bien le sel, et ça va nous rappeler une comptine. Vous savez, quand on était petit, on disait qu'il fallait courir après les oiseaux pour leur mettre du sel sur la queue.
Ah oui, je me souviens de ça, que ça les arrêtait.
Alors la question c'est, comment arrêter un oiseau en lui mettant du sel sur la queue? Il faut en mettre beaucoup quand même. Hein.
Ouais.
Sauf si le sel fixe le volatile. Et là finalement, c'est un mode d'emploi. On disait, si tu veux trouver l'esprit, trouve quelque chose dans lequel il va pouvoir se poser. Ce qui veut dire que des comptines qu'on chante ou qu'on récite comme ça et qu'on transmet, ça ne veut pas dire que ça tombe dans la bonne oreille, mais ça veut dire que les enfants les gardent, ils seront grands eux-mêmes, ils transmettront à leur tour, ainsi de suite. Et peut-être qu'à quelques générations de ça, ça tombera dans la bonne oreille. Et on pourra effectivement non seulement écouter, mais entendre.
Pas mal. Vous savez, Patrick Burin-Stenaz, le sel qui fixe, quand on teint un tissu pour le fixer, on met du sel. Avant d'être alchimiste, vous étiez, vous l'êtes peut-être toujours d'ailleurs, physicien ?
Non, je ne suis plus, non. Oui, je me suis intéressé à la matière, mais d'une manière carrée. Et puis, je vais dire, je suis peut-être passé du carré au rond, c'est-à-dire une manière de sortir un petit peu d'une pièce. J'ai l'impression que la vie peut être de deux manières. C'est un peu comme si on était enfermé quelque part, et soit on améliore son incarcération, soit on cherche la sortie. Dans un premier temps, on peut mettre effectivement du papier au mur, une belle moquette. Mais c'est pas pour ça qu'on va sortir de la prison, on va rester dans ses règles. Et peut-être que cette idée de transgresser, déjà il faut savoir qu'il y a une porte. Ensuite, il faut se retourner vers la porte. Et enfin, il faut voir qu'il y a de la lumière sous la porte.
Et savoir qu'elle est ouverte.
Alors elle est ouverte, on le sait pas au début. Et bien souvent, on passe sa vie à pousser une porte alors qu'il suffit de la tirer. Donc... On a aussi cette possibilité, voilà. Je pense que on augmente les possibles et on diminue les contraintes. D'ailleurs, c'est drôle, regardez dans notre vie aujourd'hui que vous proposent les agences de voyage, les évasions. Donc si on vous propose de l'évasion, c'est que vous êtes enfermé quelque part. Et on peut dire que le premier travail, c'est que l'homme libre sait qu'il a des chaînes et peut-être que l'alchimie se déchaîne à un moment.
Alors nous allons évoquer avec vous, Patrick Burenstenas, tout au long de cette heure, la lumière, vous l'avez évoqué, la beauté du monde, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Alain Souchon, sous les jupes des filles, c'est déjà ça, c'est le nom de l'album.
Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Elles, très fières, sur leurs escabeaux en l'air, regard méprisant et laissant le vent tout faire. Elle, dans le suave, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, tordre son cou, pour voir l'infortune à quoi nos vies se résument, pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils, la mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Si parfois ça les gêne, qu'elles veulent pas, qu'on regarde leur guibole, les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les palombes, les bières, les khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge, fanfare bleu, blanc rage, vert de rouge et vert de rage. L'honneur des milices, tu seras un homme, mon fils. Elles, affières, sur leurs escabeaux en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elles, dans le grave, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent, pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. La 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 la
C'était Alain Souchon sous les jupes des filles, extrait de l'album C'est déjà ça, qui date de 1993.
Noël Bréham, état d'esprit, sur France Inter.
Nous sommes avec vous, Patrick Burin-Stenas, pour votre livre Un alchimiste raconte, édité chez Massot. Et je vous propose d'écouter la voix de Marguerite Yourcenar. Elle parle du héros de son roman L'œuvre noire, Zénon. Zénon est philosophe, médecin, chirurgien et alchimiste.
Ce personnage de Zénon est d'une très grande honnêteté intellectuelle.
C'est probablement ce que j'ai tâché de souligner le plus, ce que j'ai voulu montrer en lui. Un esprit ouvert, enfin. Oui. Un homme sans préjugés ou qui tâche de se débarrasser des préjugés. Et c'est ce, en effet les alchimistes qui employaient le mot « œuvre noire » pour indiquer cette première phase de l'opération en termes philosophiques. Et parce qu'en termes purement chimiques et métallurgiques, ça signifiait autre chose. Ça signifiait techniquement la dissociation des substances. Mais en termes allégoriques, alors il l'employait pour la dissolution des préjugés. Et il disait que c'était là la partie de beaucoup la plus difficile du travail, et que quand on était arrivé là, tout le reste n'était qu'un jeu d'enfant.
C'était Marguerite Yourcenar au micro de France Culture. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes alchimiste, Patrick Burin-Stenas?
Oui, je ne vais pas dire, j'aurais pas dit mieux. Quelle auguste référence! Penser que finalement l'alchimie est capable de tout. D'ailleurs, on met au fronton de son laboratoire, il savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? C'est la prison dont on parlait tout à l'heure, le carcan de préjugés, d'idées reçues, d'interdits. Et l'idée, c'est vraiment de dire tout est possible. On ne demande pas de croire en tout, on demande juste d'être objectif. Et à partir de ce moment-là, l'univers s'ouvre à nous, et c'est vraiment ce qu'on cherche. Et cette œuvre noire, justement, qui est la décomposition, aujourd'hui, le terme est mal utilisé parce qu'on parlerait de corruption. Mais corruption, c'est le corps rompu. Et là, l'idée pour séparer le subtil de l'épais, avant, il faut cette séparation, il faut cette dissolution. D'ailleurs, quand on a un problème, on cherche une solution, ça veut bien
c'est
dire
vrai.
Ce que ça veut dire.
Ouais.
Et on a cette opposition avec quelque chose de dense, qui est lourd, quand on a un problème, c'est grave.
On est plombé.
Exactement. On a cette notion de lourdeur. Et la question, c'est comment on va faire des trous dans la matière pour pouvoir la lumière qui est derrière. Et faire des trous, c'est oxyder. Et oxyder, c'est oxy. Et oxy, c'est être mort. Donc, c'est cette mort des apparences. Et c'est exactement ce qu'elle est en train de dire. C'est si vous tuez les apparences, si vous faites des trous dans vos égos, vous êtes un pèlerin. Et le pèlerin, c'est celui qui se pèle. Et à force de retirer ses peaux et de se pêler, on va finir par voir à travers.
D'ailleurs, vous racontez, Patrick Burin-Stenas, que le roi de France, dans la cérémonie qu'il vit pour devenir roi, quand il est sacré, il doit enlever plusieurs manteaux, plusieurs peaux.
C'est ça, et c'est des couleurs différentes, un peu comme les couleurs de l'arc-en-ciel, et la dernière va être blanche. C'est à chaque fois, chaque couleur va représenter une épreuve.
Alors qu'il y a quoi comme couleur?
Alors on a les couleurs, ça peut être amusant de faire le lien avec les nains de Blanche-Neige, puisque évidemment les contes de fées vont nous donner les mêmes clés, et les nains c'est des gnomes, de gnose, la connaissance. Et on parle en alchimie du vitriol, qui est l'acrostiche du visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant tu trouveras la pierre occulte. Et leur métier c'est bien de creuser l'intérieur de la terre pour trouver des pierres précieuses.
Ah oui, c'est leur donc, job. On revient du boulot, ils reviennent de la mine avec leur pioche sur le
absolument.
Dos.
Absolument. Et donc on va avoir des couleurs, et chaque couleur va dépendre d'une épreuve. Le violet, le mauvais côté, c'est la peur. Le bon côté, c'est la spiritualité et l'ouverture d'esprit. Et c'est pour ça que dans notre culture, le violet est la couleur de la spiritualité.
Ah, l'évêque est en violet?
Absolument, il portait une améthyste qui lui permettait justement d'être intercesseur entre le visible et l'invisible. Après, on a la couleur orange. L'orange, c'est l'écoute. Orange, celui qui a la lumière à l'intérieur de soi. Et cette couleur orange représentera toujours le messager des dieux. Donc, l'épreuve, c'est apprendre à écouter sans entendre que soi.
Alors or, ça, c'est en jeu, comme
lumière.
Rochefort en terre.
Absolument.
En jeu, en moi, en
en plus, Rochefort en terre, il y a aussi des clés très intéressantes.
Ah bon,
un alchimiste a vécu là-bas.
Ah, je savais pas, c'est rigolo.
Voilà. Et donc, on va avoir ces couleurs qu'on trouve symboliquement partout, soit à travers les pierres, soit à travers les peintures, soit à travers les différentes œuvres. Et donc, ce roi avait ses chasubles, et à chaque fois, on lui demandait de passer à travers. Donc, la première dépasse la peur. La deuxième apprend à écouter. La troisième, le vert, c'est apprendre à écouter l'autre. c'est le rapport à l'autre. La couleur suivante, le jaune, c'est recevoir la lumière en étant bon, altruiste. C'est à la fois le monde du maître et du gourou, au sens péjoratif. Le maître éclaire, le gourou brille. C'est pas du tout la même chose. Pour briller, faut être bien poli, et on reflète le regard des autres. Alors que pour éclairer, on doit être transparent. Et celui qui est transparent, c'est celui qui traverse les apparences. Mais évidemment, plus il va éclairer, mais on va le voir. Et il peut dire, c'est moi qui l'ai fait. Et là, l'ego revient, il remet une couche, et il éclaire plus, il brille. L'épreuve suivante, c'est la rouge. La couleur rouge, c'est dépasser la violence et la colère, pour trouver la force de construire. L'épreuve suivante, c'est la bleue. C'est recevoir la puissance, qui est une énergie indifférenciée, sans succomber au pouvoir. Et la dernière épreuve, c'est le noir, c'est rassembler ce qui est épars, sans succomber au chaos. Et quand Walt Disney donne une caractéristique aux nains, ce que les frères Grimm ne font pas, c'est-à-dire que c'est eux qui font à l'origine les contes. Walt Disney dit, moi je vais donner des caractéristiques pour bien raconter ça. Et chaque nain va correspondre à ça. Vous avez Simplet, qui est au début, lui doit déplacer la peur. Vous avez Dormeur, celui qui rêve tout le temps, le messager des dieux. Vous avez Timide, celui qui a un problème avec les autres, qui doit le régler. Vous avez Prof, celui qui transmet. Vous avez Joyeux, alors lui c'est un peu plus délicat, parce que Joyeux il est jovial, jovial il est jovien c'est Jupiter, et Jupiter c'est l'étain, c'est la foudre, donc c'est la puissance. Et enfin, vous avez Grincheux qui est saturnien. Les sept nains nous donnent les sept clés pour trouver les pierres cachées à l'intérieur de la mine.
Le chiffre 7, il vous plaît bien, Patrick Burenstenas, en tant qu'alchimiste ?
Absolument, mais pas seulement à moi. Dans toutes les cultures, on va trouver ce chiffre 7, et même dans la matière. Tous les minéraux qui sont sur Terre cristallisent selon sept modes différents.
Ah ouais ?
C'est pas seulement une valeur métaphysique, c'est aussi une valeur physique.
Bah vous êtes physicien, vous, à la base.
À l'origine, évidemment, ça m'a donné des clés de compréhension du monde. Ça a été beaucoup plus loin pour moi dans les explications, justement dans les contes de fées, justement dans ce qu'il y a autour de nous. Et toute culture confondue, par exemple, les sept dieux de la sagesse, c'est japonais. Ouais. En Inde, on parle du bodhisattva. Quand on se présente devant le bodhisattva pour savoir si on est rectifié, justement, il a son vajra qui représente la foudre et il fait passer la foudre à travers nous. Voilà, soit on fait pas résistance, soit on fait résistance et on se casse en sept morceaux. Donc, toute culture confondue, on va retrouver ce sept qui sont les sept étapes entre la matière et la lumière. Les voiles d'Isis, sept voiles d'Isis, sept barreaux à l'échelle de Jacob. Et on pourrait comme ça multiplier. Regardez, on a parlé de Blanche-Neige, mais pensez aux petits poussets, ils sont sept.
Ah oui, c'est juste.
Et on va trouver ça absolument partout, donc il y a forcément un point commun.
Walt Disney aurait été...
Il n'est pas forcément alchimiste, mais c'est un initié, ça c'est sûr et certain. Et il a envie de mettre à l'intérieur de ses contes, qu'il n'a pas écrit, d'ailleurs les frères Grimm non plus.
Non, ils les ont récoltés.
On les a collationnés, et des fois très loin. Par exemple, Cendrillon, c'est un conte chinois.
Ah bon ?
Mais oui, c'est pour ça qu'on a l'histoire du petit pied. Mais ça, c'est un cadran de beauté chinois.
Ah bien sûr, dans la chaussure de verre.
Et évidemment. Et donc, on va retrouver ça. Perrault a édulcoré beaucoup, parce que c'était pas lisible à la cour. Quand vous lisez les contes dans leur original, c'est pas du tout pour les enfants. C'est plein de viols, de meurtres, de découpages divers et multiples, d'inceste.
D'inceste, enfin, oui. Ouais.
On peut pas raconter ça, quoi. Et Walt Disney a édulcoré parce que c'est avant tout pour les enfants, mais il va mettre des indices un peu partout. Par exemple, les trois couleurs. On a parlé de l'œuvre noire, mais il y a l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. L'œuvre noire, c'est la décomposition de la matière. L'œuvre blanc, c'est la recomposition de la matière et son alignement. Donc ça devient blanc, la licorne liée par la corne. Et ensuite, la vraie lumière passe dedans et ça devient rouge. Donc noir, blanc, rouge. Et bien, regardez les couleurs de Mickey. Eh bien, il est noir, blanc, rouge.
Ah oui.
Voilà. Donc, il avait une idée derrière la tête.
La licorne, ça existe ?
Ah, c'est une bonne question. On dit qu'elle n'est pas arrivée à temps à l'arche de Noé et qu'elle est restée sur le bord pendant que l'arche partait et qu'il n'y a plus de licorne aujourd'hui.
Oui.
Vous savez, peut-être que la réalité, c'est une folie qu'on partage. Et si on est tous suffisamment persuadés de quelque chose, ça devient vrai.
I can see that you're giving up. It should not mean that much to me. And I don't know where the rest go. But everybody's been telling me no. Oh, woman. Oh, 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 man. Choose a path or a child. Great mirrored plan. Yellow.
And I can see that you're giving up. So tell me, it should not mean this much to me. And I don't know where the rest goes. Everybody's been telling me no. But I always have a thing for you. I move the earth, but nothing made you want me better. There is nothing I can do but steal the moon, and nothing made you want me better.
J'étais autorisé à pénétrer dans ce lieu secret, le laboratoire de l'alchimiste. Je découvris une petite pièce au centre de laquelle se trouvait un simple four. L'atmosphère qui y régnait me surprit. La chaleur du four, les odeurs de soufre, le bruit du minerai qu'on broie. Je regardais Roger mélanger les sels minéraux, peser le minerai, mixer les fondants, et je me demandais ce qui pouvait conduire un homme apparemment raisonnable à répéter ces gestes encore et encore depuis plus de 20 ans.
C'était extrait de Faut pas rêver qui a été diffusé sur France 3 en 1993. Patrick Buren-Stenas, vous êtes alchimiste, vous venez d'écrire Un alchimiste raconte, édité chez Massot Éditions. Est-ce que cette description du laboratoire de l'alchimiste vous paraît raisonnable ?
Est-ce qu'un alchimiste est raisonnable?
En tout cas, il paraît raisonnable, dit le journaliste.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une méprise à l'origine, c'est qu'on imagine que l'alchimie est une proto-chimie.
Ça veut dire quoi, une proto-chimie?
C'est-à-dire qu'avant, c'est une chimie antique, quelque chose. En gros, ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Ils ont fait des expériences par hasard et ils sont tombés sur des trucs. Sauf que c'est pas la même motivation. Les alchimistes ne cherchent pas la matière. Il cherche une pierre philosophale, donc c'est quelque chose de philosophal et pas de matériel. Par conséquent, ils trouvent de la matière. Par exemple, ils ont besoin de maintenir à des très hautes températures, et donc on a tout essayé. C'est d'ailleurs pour ça que les alchimistes chinois essayent toutes sortes de terres, et un jour, par hasard, ils tombent sur du kaolin et ils viennent d'inventer la porcelaine. Mais ils ne cherchaient pas la porcelaine. Ils cherchaient quelque chose d'autre, alors que les chimistes cherchent des produits.
C'est la sérendipité. Je trouve ce que je ne cherche pas.
C'est exactement ça, parce que si on sait ce qu'on cherche, au mieux on trouvera ce qu'on sait. Et là, on est au début dans le connu, et à un moment il se passe quelque chose, on bascule dans un inconnu, nos mains courent plus vite que notre tête. Alors pour moi, le laboratoire, c'est un lieu où il peut se passer des choses extraordinaires. D'accord. Si on utilise des outils ordinaires, on trouvera des choses ordinaires. Pour trouver l'extraordinaire, il faut utiliser des outils non ordinaires.
Donc, ce n'est pas un laboratoire de chimiste.
Absolument pas.
C'est un laboratoire d'alchimiste. Absolument. Où il y a de l'extraordinaire.
Absolument, dont l'expérimentateur. Et on peut dire, pour moi, la différence entre le chimiste et l'alchimiste, c'est qu'en alchimie, l'expérimentateur a une place dans l'expérience. L'alchimie ressemble plus à de la cuisine. Prenez deux cuisiniers qui ont la même formation, qui ont les mêmes produits, eh bien, ils vont faire deux plats différents.
Eh oui, pourquoi ?
Et la question, on va dire pourquoi ? Et on va dire, ah, il y en a un, il a fait un truc extraordinaire. Puis il a une espèce de... impalpable. Bah, c'est ça l'alchimie. C'est la quête de cet impalpable. Même si pour ça, il faut partir de ce qu'on est, c'est-à-dire de la matière, et utiliser effectivement ce qu'on a sous la main. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment, on ne va pas déborder ça. Parce que le risque, c'est d'être piégé dans cette matière et de jamais en sortir. Mmh. Et on sera toujours plus mauvais qu'un chimiste. Parce qu'il aura une connaissance de la matière bien plus grande qu'on n'aura jamais. Et c'est pour ça que l'alchimie ne s'appelle pas la grande technique, mais le grand art.
Ah oui.
Et que tous les arts tournent autour de l'alchimie. Et on va avoir ses clés, justement.
Vous dites, Patrick Burenstenas, que finalement, cette recherche de l'or à partir du plomb, c'est à peu près la seule chose que nous savons, nous, profanes, sur l'alchimie. C'est pas ça du tout.
Oui et non. C'est-à-dire qu'il faut s'entendre sur le terme or. Le terme or, la racine, c'est aor, un mot hébreu qui veut dire lumière.
Ah.
C'est ce qui a donné oratoire, par exemple. Donc la clé, c'est de trouver la lumière.
D'accord.
Évidemment, le profane imagine que l'alchimie ne peut que répondre au grand mystère de l'humanité. C'est « je vais mourir », c'est « j'ai besoin d'être riche », c'est « on m'aime pas », c'est « je vais être malade », c'est « je vais souffrir ».
Ce sont nos peurs à tous.
Absolument. Et on peut dire qu'on cultive l'alchimie, en tout cas l'imagerie d'Épinal, c'est comment résoudre ces peurs. Alors que c'est pas du tout ça. Quand on dit en alchimie « purifier la matière », c'est retirer des ombres. Tout à l'heure, on en a parlé pour l'homme, mais c'est vrai pour la matière. Et c'est pour ça qu'on parle des sept métaux, le plomb, l'étain, le fer, le mercure, le cuivre, l'argent et l'or. Et pour l'alchimie, c'est le même, à des états de maturation différentes. C'est comme s'ils avaient des ombres, ils avaient des couches. Et à chaque fois qu'on purifie la matière, on retire une de ces ombres. Et on peut dire que le plomb a sept ombres, mais que l'étain en a six. Et que l'or n'a qu'une seule ombre. Donc on pourrait imaginer que la transmutation, et vous remarquerez que les alchimistes ne transforment pas, ils transmutent. Transformer, c'est prendre une forme pour faire une autre forme. Transmuter, c'est prendre une forme pour la faire disparaître. Et justement, en faire de la lumière. Et ça va se faire progressivement. Alors, c'est sûr que le métal le plus proche de la lumière, c'est l'or, puisqu'il reste plus qu'une seule ombre. Et d'ailleurs, on dirait qu'il est précieux, près des cieux, ce métal. Et il suffira de retirer la dernière couche pour que le plomb se transmute en lumière. Et c'est le vrai but de l'alchimiste. C'est de faire disparaître l'univers, finalement. Puisque, au début, on peut dire s'il y a eu un début, tout était un, puis on l'a fractionné, et le but du jeu, c'est retrouver cette unité. D'ailleurs, le bonheur, c'est l'unité. Vous êtes dans un lieu, tout est à sa place, vous aussi, mais vous savez pas pourquoi. Et si vous vous posez la question de savoir pourquoi, vous êtes bien, vous l'êtes plus. Pourquoi? Parce que vous allez utiliser votre mental, qui est un excellent outil, mais il est chronologique. Il utilise la logique du temps. Et nous, on cherche l'éternité. On peut donc pas trouver l'éternité en suivant la logique mentale. Donc, il va se passer autre chose, qui va nous mettre dans un état qui va être au-delà de quand on arrive dans ce monde, on apparaît, quand on quitte ce monde, on disparaît, donc on fait que paraître. Et la clé, c'est on est quand ? Et peut-être que la clé, c'est la clé de l'être, mais aussi dans la matière, et qu'à force de retirer ses ombres, la distance entre moi et la lumière va devenir de plus en plus ténue, et je vais finir par voir à travers. Voilà, absolument.
Oui, donc si on est nu, on n'a plus de quoi paraître, on n'a pas des habits à la mode bien coupés, au contraire, pas jolis.
Absolument, c'est la vraie quête de l'être, c'est ça qui nous rend heureux. C'est l'image aujourd'hui qui nous tue. Quand on vit avec quelqu'un qui vous dit « tiens, je pensais pas que t'étais comme ça », ça veut dire que c'est que l'image qui l'intéresse et pas vous. Et quand vous allez montrer qui vous êtes et si on vous aime pas comme ça, bah, c'est pas vous qu'on aime, c'est l'image, donc faut laisser une photo puis partir, quoi.
Oui, mais en même temps, Patrick Burenstenas, on est comme les boutiques, les humains. On a une vitrine, et c'est cette vitrine qui donne envie aux gens de rentrer dans la boutique. C'est ce que nous paraissons qui donne envie aux gens de nous peut-être nous connaître. Au début, il faut bien qu'on présente quelque chose de peut-être un peu superficiel. Il y a bien une première couche.
Non, mais c'est nécessaire. Je veux dire, bien sûr qu'on est là dans le monde, on est dans une relation d'image, d'effet, mais il faut pas rester sur cette couche. Ouais, vous dites effectivement cette boutique est merveilleuse, mais vous finissez par rentrer dedans. Si c'est seulement la façade qui vous intéresse, vous restez dehors.
Ouais, c'est juste.
Il va falloir la franchir un moment. Oui, la première chose est attrayante. Ouais. Alors après, est-ce qu'on vend vraiment ce qu'on présente? Ça, c'est autre chose. Cette adéquation entre l'image et ce qu'on est en vrai. Mais
on est dans la séduction, mais on se rend même
pas
pourquoi compte.
Mais je veux dire que vous
ça pour être aimé. Mais vous aviez parlé des peurs tout à l'heure.
J'ai bien compris, mais je veux dire que quand on vous voit tel que vous êtes beau.
Ah,
la vraie
tout
beauté
est dit.
Et pas du tout dans l'apparence.
On n'a pas besoin de cacher, au contraire, on peut montrer.
Pas. On a cette illusion en disant, imaginez, vous
tout
avez un cheval,
dit.
C'est un percheron, et votre voisin il a un pur sang. Ouais. Et vous vous dites, qu'est-ce qu'il est beau ce cheval, je voudrais bien être comme ça. Et toute votre vie, vous vous déguisez en pur sang.
Alors que je suis un percheron.
Et que vous êtes un percheron. Et vous, votre travail, c'est de passer la herse. Vous avez l'air malin, vous, une fois que vous ressemblez à un pur sang. C'est toujours cette idée, si j'ai besoin de raison pour être heureux, je suis jamais heureux. Mais si je suis heureux sans raison, et c'est pas en cherchant des raisons illusoires, on va m'aimer parce que je vais avoir la tête de... Alors après, c'est toujours cette quête de l'âme sœur. On se dit, mais je vais aller dans le monde chercher une âme sœur. Mais on n'a pas besoin, on est tous des âmes sœurs. La seule différence, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il faut franchir la porte de la boutique. Et si on est capable de la franchir, on reconnaît l'autre comme soi-même. D'ailleurs, on parle de l'univers, univers. Mmh. Et cette idée de se rassembler vers quoi? Vers ce cœur, ce centre, cette unité. Et comment on va faire pour dépasser, quelle que soit la forme de la boutique, ouais, pour trouver le fameux point commun 1 qui est à l'intérieur?
Cette histoire d'unité, si quelqu'un est malheureux et qu'on lui dit, avec notre raison, en parlant à sa raison, tu as tout pour être heureux, tu es beau, tu as des beaux enfants, tu as un travail intéressant, tu as de quoi gagner ta vie, il s'en fiche complètement.
Mais en fait, complètement, de la même manière qu'on dit à un enfant, on finit ta soupe parce qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le monde.
Ça rien
il
à
s'en
voir.
Fout complètement, puis ouais, ça n'a rien à voir. Par contre, si on leur rend heureux et qu'il a envie de le faire, à ce moment-là, la question ne se posera plus. La question se pose parce qu'on rentre dans un système, on rentre dans un schéma, on rentre dans une hiérarchie, on rentre dans un besoin. Amener des enfants visiter des ruines, je veux dire, ils s'en foutent complètement. Racontez-leur qu'on va à la chasse aux trolls à l'intérieur, mais on les arrête plus. Hein.
Ouais.
On va faire exactement la même chose, hein. Mais ils vont être dans un état d'esprit différent et je vous garantis qu'ils vont avoir des trolls. Hein.
Ouais.
Et ils vont avoir passé une journée en disant « Ah, c'était génial, quand est-ce qu'on y retourne ?»
Patrick Burenstenas, un alchimiste, raconte, et c'est édité chez Massot Éditions, et vous en dites des choses dans ce livre. Ce qui revient très très souvent, et nous allons en reparler, c'est ce fameux immobile, silencieux et aligné. Dansons.
Yeah.
C'était Marvin Gaye, What's Going On.
Noël Bréham, État d'esprit, sur France Inter.
Patrick Burin-Stenas, vous avez écrit « Un alchimiste raconte », c'est chez Massot Éditions. Et vous en racontez des choses. Et quand vous parlez de ce monde de maintenant, vous dites qu'on est finalement gavé d'informations entre la télévision, le téléphone portable et d'autres choses, et que finalement on ne voit plus, parce qu'on voit trop de trucs en fait.
Oui, et puis surtout on est un peu enfermé. D'ailleurs, les téléphones portables, ça s'appelle des cellulaires. Donc ça ne donne pas envie de s'en libérer. Et puis on communique à travers des écrans. Donc ça arrête forcément quelque chose. La télévision nous envoie des flots et des flots d'informations tellement puissants qu'on peut pas penser à autre chose. Donc c'est vrai que on a des informations complètement hétérogènes qui nous parlent souvent de choses qui nous concernent pas directement. On parlait tout à l'heure des stress, les trains qui s'écroulent à un endroit, les avions qui tombent, et on n'a pas le temps de récupérer. Où qu'on se tourne, on nous amène des catastrophes, on nous amène des stress, alors que ce monde est assez globalement beau quand même. Et c'est un peu dommage. Bon, c'est sûr que ça intéresse personne, on va dire, on va pas communiquer là-dessus, parce que si on dit aux gens tout est merveilleux, ça va pas les intéresser. On a cette espèce de peur en nous qui fait qu'à chaque fois qu'on voit une catastrophe, on dit c'est pas moi. Vous savez, c'est quand on est sur le bord de la route et qu'on voit un accident, tous les gens freinent, s'arrêtent pour regarder ce qui se passe.
Bah, c'est intéressant. On veut savoir ce qui lui est arrivé.
Moi, je suis pas du tout sûr de ça. Je pense que c'est plus un côté un peu morbide en disant c'est pas moi. Et plus les trucs horribles vont être horribles, plus moi je me sens un peu gardé de
comme
ça.
S'il y avait un quota d'accidents, on se dit si lui là, moi je l'aurais pas.
Mais je pense qu'on peut dire ça. C'est tombé là, finalement c'est pas moi qui l'ai eu. On a une espèce de peur, justement, presque une peur de vivre aujourd'hui. Bon, le monde ne s'arrange pas. Je veux dire, il fut un temps où on disait que la Terre était plate et que si on allait s'éloigner de chez nous, on allait tomber dans des gouffres, que les barbares étaient à nos portes. J'ai l'impression aujourd'hui que la Terre redevient plate.
Oui. On nous dit avec exactement
la même chose. Les barbares sont à vos portes, il y a des gouffres si vous éloignez de chez vous. Donc on transpose exactement la même chose. Alors que moi, je reste absolument convaincu que ce monde est extraordinaire, que l'homme est bon et que... il suffit juste de le titiller un peu, d'être juste un peu optimiste pour. Et il suffit de rien. Je pense que l'homme a envie d'être heureux, finalement. Et qu'après, s'il se lamente sur lui-même et que notre vie devient le choix des contraintes, il faut se poser cette question. Le nombre de choses qu'on ne peut pas faire.
Patrick Burin-Stenas, on pourrait penser que vous êtes philosophe, vous l'êtes, mais ce n'est pas votre métier, que vous êtes psy, quelque chose, vous l'êtes, mais ce n'est pas votre métier, vous êtes un sage en tout cas, et vous êtes alchimiste, c'est le titre de votre livre, Un alchimiste raconte chez Massot Éditions. Mais vous avez également fait, par exemple, un voyage initiatique, vous racontez dans ce livre votre pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, vous ne l'avez pas fait pendant 15 jours, un été, vous l'avez fait pendant un an.
Oui, parce que moi je pense qu'un pèlerinage, c'est pas une occupation. Et puis quand on part, on ne sait pas où on va et on ne sait pas combien de temps on va le faire. Tout ce que je dis n'engage que moi. Hein. Mais celui qui dit, moi je vais faire 20 km par jour et qu'il est fait, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, il peut rester chez lui et faire ça sur un tapis roulant finalement. Le but du pèlerinage pour moi, c'est de perdre la notion du temps qui passe. C'est-à-dire que d'abord on part comme ça. D'abord, on part avec un sac à dos qui contient toutes nos peurs.
Oh là, ça fait lourd, ça.
Et donc, il est énorme. Et très vite, on se rend compte que c'est nous qui portons. Et donc, on s'en débarrasse progressivement et on arrive dans le plus grand dépouillement. Et puis après, moi, quand ça m'a touché, je faisais effectivement un certain nombre de kilomètres par jour. Puis, un moment, j'ai trouvé un lieu, je me suis assis et j'ai fait « Waouh !» Et je pense que c'est là que le vrai pèlerinage a commencé. Perte la notion du temps qui passe. C'était en Espagne, un endroit, c'était déjà assez loin, donc un endroit très particulier, où il y a un arbre qui ressemble à une pierre, il est minéral, et devant il y a des petits vieux assis, et cet arbre s'appelle la porte du temps. Mais j'en avais pas la moindre idée, hein. Mais voir cet arbre qui était de pierre, ou qui était tellement figé, il bougeait sans doute, mais pas à la même vitesse que moi. J'ai l'impression que cet arbre m'a ralenti, il m'a arrêté. Et quand j'ai franchi ce pas, je marchais plus à la vitesse d'un homme, mais à la vitesse de l'arbre. Et là, j'ai commencé à voir des tas d'autres choses. Les choses que je pouvais pas voir parce que j'allais trop vite. Mais en allant lentement, j'allais moins loin, mais j'allais mieux. Ouais. Et cette idée fait qu'on arrive un moment à Noia, qui est le féminin de Noé quand même. Et là, il y a des tombes où il n'y a rien de marqué dessus. On marque son nom dessus. C'est incroyable. Imaginez de marquer votre nom sur une tombe.
Vous êtes mort à vous-même.
Voilà, ça fait quand même un drôle d'effet. On a vraiment l'impression de se dépouiller. Il faut le faire quand même. On n'a pas envie de le faire. Et puis quand on le fait et qu'on prend du recul et qu'on dit « Attends, c'est mon nom marqué ici. Un jour, je serai dessous. »
C'est marqué sur une pierre ?
On le grave à la main sur les pierres. Et après, on continue son pèlerinage. On ne s'arrête pas à Saint-Jacques. Mais on continue jusqu'au bord d'un endroit qui s'appelle Fistera et qui est la contraction de Finistera, l'endroit où la terre se finit. Donc tout s'arrête à cet endroit-là. On est à l'ouest de l'ouest. Et l'ouest, c'est l'endroit où on est occident. Donc c'est cette vraie mort. Et là, on voit le soleil qui tombe dans l'eau. Et puis, bah, on est là, après les étoiles apparaissent. Et pour nous, c'est une vraie dissolution. On a tué notre ego, on a tué la notion du temps qui passe, on n'a plus rien à perdre, c'est là qu'on peut trouver.
Donc il se passe vraiment quelque chose. Parce qu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a la matière dont a besoin l'alchimiste sur la plage. Enfin, voilà. Un petit peu plus loin que Saint-Jacques, vous dites.
C'est de l'antimoine, c'est un métal. Un vrai métal.
Mais comment s'est trouve un métal sur la plage ?
Oui, il y a sans doute des nodules polymétalliques qui sont recrachés par la mer, un volcan en mer par exemple, même très loin. Il y a des courants qui les roulent et qui les ramènent sur la plage, mais à certaines périodes de l'année.
Et ça ressemble à un coquillage ou ça ressemble
à quoi ?
Ah non,
pas du tout, pas du tout. On dit tu prendras une matière que les autres rejettent comme du fumier, ça ressemble à des crottes de chien un peu. Vous savez, mais allongé un peu, parce que ça a été roulé par la mer et ça a la même couleur. C'est le même granuleux, mais ce qui est extraordinaire, c'est quand on le prend et qu'on le casse, il y a des étoiles dedans. C'est-à-dire que le métal est cristallisé de telle manière qu'il forme des étoiles. C'est ça ce compost stellaire-là aussi.
Et c'est ça l'antimoine.
Cet antimoine qui est un métal, c'est un début de quelque chose. Oui.
Donc finalement, ce voyage à Compostelle vous a transformé, vous, Patrick Burin-Stenaz, et vous a donné le début de votre travail d'alchimiste, donc le début de la transformation de la matière.
C'est ça, mais je ne savais pas que le plus important, elle était la transformation de l'expérimentateur, de moi. Finalement, la matière, j'aurais pu la prendre ou l'acheter n'importe où. Il y a des marchands de métaux partout, j'aurais pu trouver cette matière. Et on peut dire que la matière, elle est secondaire, mais c'est moi qui ai fait le chemin pour la ramener. Et c'est moi qui l'ai portée sur le dos pour la ramener. Et j'aime mieux vous dire que...
C'est lourd.
C'est lourd, mais surtout, elle a une immense valeur. C'est pour la qualité de celui qui l'a cherché. J'ai chargé ce métal de tous mes espoirs, de toutes mes peurs. C'était pas une volonté, il faut que ça soit dur, il faut que je souffre. Ça, 2000 ans de culpabilité, ça suffit, on a donné. Mais c'est juste dire, voilà, qu'est-ce que je suis capable de faire et qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour me rendre heureux. Et très vite, on se rend compte qu'on a besoin de rien. Il y a vraiment cette notion du passage, au sens littéral, le passage. On dit toujours, vous savez, c'est ce qui nous conduit vers la mort, puisqu'on trépasse. Trépasser, c'est passer trois fois, à condition qu'on ne trébuche pas. Trébucher aussi, c'est chuter trois fois. Ouais. Et donc l'idée, c'est, et on chute sur le chemin, et c'est difficile ce chemin, mais on va acquérir, au sens littéral, c'est-à-dire à la quête de... Et on vit des moments tellement extraordinaires qu'on oublie tout ça, des moments qui ne sont pas dans le monde. Des choses, oui, on peut dormir en marchant, oui, on n'a plus de difficultés physiques, oui, on est ailleurs, quoi. C'est la première fois qu'on est ici en allant ailleurs.
À l'ombre des fleurs et la tête chenue, il veille au fond des cœurs, le gardien. Sous les cerisiers, au printemps, il demeure le gardien des fleurs, le gardien des fleurs, le gardien des fleurs. Sous la brume légère, les pas des promeneurs. Les restes de l'hiver, le retour des fleurs. Ombre passagère, on sait ici d'ailleurs qu'il est feuilleux les pleurs, le gardien des fleurs, le gardien. Le gardien des fleurs.
vient en le matin et ne déroute en rien le gardien des fleurs, le gardien des fleurs, le gardien.
Freda, c'était le gardien des fleurs, cet extrait de leur dernier album qui s'appelle Land et qui nous emmène vers le sud des États-Unis. Patrick Burstenas, un alchimiste, raconte chez Masso Éditions. L'alchimiste, c'est vous. Je vous ai en face de moi. Je pense que ça doit vous agacer à la longue qu'on vous dit ça. Vous avez l'air normal.
Non, ça m'agace pas du tout. Au contraire, on imagine l'alchimiste avec un chapeau pointu, une grande barbe.
Oui, entre Dumbledore et Nicolas Flamel.
Voilà. C'est ça qui est justement intéressant.
Au départ, votre papa était métallurgiste, vous êtes venu quand même par la matière au départ. Vous étiez physicien vous-même.
Oui, mais aussi une tendresse pour la matière. C'est-à-dire, je me souviens que mon père était marchand de métaux et je me souviens avoir joué dans des monceaux de soldats de plomb, des montagnes. Je me souviens avoir récupéré des vieux cadrans pour me faire le Nautilus. Donc, c'était pas de la ferraille morte pour moi, c'était des histoires.
Ah ouais.
D'où ça venait, quelle était l'histoire de ça et surtout où ça me conduisait. Donc, je veux dire, j'avais pas besoin de console à l'époque, déjà ça existait pas, pour créer des autres univers. Ouais. Tout était là.
Alors, vous racontez dans ce livre, Patrick Burstenas, un alchimiste raconte, c'est chez Masso Éditions, le travail de l'alchimiste. Vous parlez du nom des métaux, vous dites des expériences qui sont étonnantes, que si on écrase un diamant transparent, ça m'est jamais arrivé. D'abord, j'oserais pas, tiens, prête-moi ta bague. N'empêche que si on écrase un diamant blanc transparent, on obtient une poudre noire.
Tout à fait, puisque la lumière se perd dedans. Et se perdant dans tous ces petits grains, elle ne ressort pas, et ne ressortant pas, ça fait noir. Et c'est pour ça que la seule manière de retrouver ce diamant blanc, ce serait de rassembler ces poudres et de l'aligner surtout. C'est la différence entre le charbon et le diamant. C'est du carbone pur les deux. Alors pourquoi il y en a un qui est noir et mou, et l'autre, un des matériaux les plus durs de notre univers, est transparent? Ben justement, parce qu'il y en a un qui est chaotique et il y en a un qui est aligné. Et la seule différence entre ces deux matériaux, c'est pas la nature des matériaux, mais c'est la manière dont ils sont organisés.
Ah, l'expérience du carton de billes.
Exactement. Et c'est une expérience que vous pouvez faire vous-même. Vous prenez des billes que vous mettez dans un carton, vous les mettez en vrac, vous essayez de passer le point à l'intérieur, ça marche très bien. Ensuite, vous faites vibrer le carton. Et là, vous essayez de passer le point dedans, ça marche plus. Les billes se sont organisées dans un réseau cristallin et ça devient extrêmement dur. C'est la même chose que les sables mouvants. Le sable mouvant, c'est du sable en suspension. Et dès que vous bougez à l'intérieur, il s'organise et vous êtes pris à l'intérieur. C'est comme le béton vibré est plus dur que du béton pas vibré.
La matière recèle des merveilles.
Des merveilles.
Oui. Parce que finalement, dans ce livre, donc, vous parlez d'alchimie, mais vous parlez de la vie, des hommes, du monde, des mystères, de notre monde, des autres mondes.
Oui, mais l'alchimie sans la vie n'existe pas. C'est pour moi un art de vivre, un art d'être, une philosophie. Et si on passait seulement sa vie dans son laboratoire pour chercher une pierre qui transmute le plomb en or, ça sert à rien, à personne. Si on n'est pas capable d'être heureux et de rayonner ensuite autour de soi et de donner des outils sans que ce soit des dogmes en disant ben voilà des choses extrêmement simples pour que vous soyez heureux, pourquoi pas le faire? Et même ça fait partie de ça, ça fait partie de j'ai trouvé quelque chose, j'ai envie de le partager. Et c'est ça aussi qui est beau. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'alchimie, surtout par les temps qui courent, c'est que c'est un art qui s'est affranchi de toute culture, de toute religion, de tout sexe, de toute couleur, de tout pays. Les alchimistes du monde entier ont toujours travaillé ensemble.
Parce qu'il y en a dans le monde entier.
Absolument. Là, je parle que d'alchimie occidentale, mais il y a une alchimie chinoise extrêmement puissante, qui a beaucoup plus d'avance sur nous, une alchimie hindoue, indienne, africaine. Quand le sorcier africain, qui est le forgeron, est à l'extérieur et qu'il invoque les esprits pour pouvoir faire son métier, métal. Eh bien, on met de l'esprit dans chaque chose. J'ai rencontré quelqu'un qui forgeait des sabres au Japon. Lui, il parlait pas anglais, moi je parlais pas japonais. Il me donne les outils. La seule chose, il dit, prouve ce que tu sais faire. Et j'ai montré, c'était naturel pour moi. J'ai continué à travailler. Il m'a repris les outils, il a viré tout le monde et on s'est retrouvés tous les deux ensemble. On s'est reconnus comme de la même famille.
En propos de forgeron, j'ai cru tout ce qu'il y avait dans ce livre. Mais quand vous dites que vous avez fabriqué une épée en métal, solide comme du métal, mais transparente comme du verre, j'ai un petit doute.
Oui, pourquoi pas. J'aurais pu vous en amener, on est à la radio, ça se voit pas. Ouais. Mais on peut effectivement vitrifier un métal, c'est-à-dire le rendre transparent. À tel point, c'est que les vitraux sont faits comme ça.
À Chartres.
Il en reste quelques-uns à Chartres, il y en a un peu dans le monde, parce qu'au fur et à mesure qu'on les remplace, on sait pas le faire, donc on remet des choses modernes. Mais un exemple que vous connaissez, et vous allez voir qu'on peut le prouver, c'est quand vous prenez du cristal, la différence entre le cristal et le verre, c'est qu'il y a du plomb dedans.
Dans le cristal.
Oui, on met du plomb dans le verre et ça fait du cristal. Est-ce que vous le voyez, le plomb ?
Non.
Non ? Pourquoi ? Parce qu'il a bien été rendu transparent. Donc, si c'est possible dans du cristal, avec un pourcentage de plomb, pas 100%, eh ben, ça doit être possible à 100%, et ça l'est.
D'accord. Alors, dernière chose, qui est assez subtile, vous n'êtes pas le seul à parler de ça, vous vous dites couder l'univers, d'autres parlent de pensée positive, Patrick Burenstenas, vous dites qu'il faut attendre quelque chose, mais en même temps, si on attend trop cette chose, on n'aura que cette chose. Alors, il faut attendre ou il ne faut pas attendre ? Il faut espérer ou il ne faut pas espérer ?
Non, je ne pense pas. Je pense que le philosophe cherche la perfection du moment présent. Ça veut dire qu'il prend tout ce qui passe, mais il le lâche quand ça le dépasse.
Vous avez le sens de la formule.
Voilà, le problème du désir, c'est désirer quelque chose, c'est se priver de tout le reste. Quand on désire quelque chose, on réserve la place pour l'accueillir. Mais si ça vient pas, il reste que le trou. Donc à force de désirer des choses qui viennent pas, on est plein de trous. Et c'est pour ça que les gens sont avides. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc à part, c'est comme les gens qui disent « moi j'ai pas de chance, je rencontre toujours les mêmes ». Mais c'est normal parce qu'ils libèrent toujours la même place. C'est comme la pièce du puzzle qui manque. Donc ça sera toujours la même pièce qui va venir. Et c'est pas de la faute de celui qui vient. C'est de la faute, si je puis dire, s'il y a faute.
Pas de faute,
ouais. C'est de celui qui accueille. Donc cette idée, c'est de dire, au lieu qu'on se batte tous pour quelque chose, moi, je vais prendre ce qui passe. Il en passe des choses, il en passe. L'idée, c'est un peu le chat qui a le nez dans un trou de souris, et les souris, elles courent derrière. Et à la fin de la journée, il va dire quel mauvais lieu pour chasser. Cette idée, c'est de dire, je désire rien, mais je goûte ce monde. Par contre, je suis attaché à rien. Être attaché à quelque chose, c'est horrible.
Attaché.
Attaché, c'est affreux. Même à quelqu'un, je veux dire, ça n'empêche pas l'amour. L'amour, c'est pas être attaché. Hein. C'est au contraire, c'est une fusion sans confusion. Alors que les émotions ont tendance à nous séparer, nous arracher. Donc, goûter ce monde à sa juste valeur, c'est forcément quelque chose d'extraordinaire. Et là, il y en a pour tout le monde.
Patrick Burenstenas, on vous écouterait pendant longtemps. On peut acheter votre livre, Un alchimiste raconte, c'est chez Massot Éditions. Voilà, c'est la fin de cette émission et de cette saison. Merci à vous d'avoir suivi cette émission ce soir et cette année. Nous nous retrouverons l'année prochaine. Je ne sais pas encore ni où ni sous quelle forme, mais nous nous retrouverons car nous avons encore de belles choses à partager. N'ayons pas peur du changement car rien ne se perd, tout se transforme. Nous l'avons suffisamment vu avec vous, Patrick Burenstenas. Bel été à tous, immobile, silencieux, aligné. Ce pourrait être un programme, ce qui n'empêche pas de sauter dans les flaques, de danser, de lire, de rire, de mourir un peu et de repartir tout à fait. Vous pourrez la semaine prochaine, à cette heure-ci, entendre Mélanie Bauer dans Back to Back. Alors, cette émission a été réalisée par Simone Depoux, préparée par Emmanuel Fournier. Les disques ont été choisis par Muriel Pérez et la prise de son était de Maxime. Un grand merci, sans jeu de mots Maxime, un grand merci à tous. Après les informations, vous avez rendez-vous avec Brigitte Patient pour Regarder Voir. Elle évoquera les femmes photographes.